Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Par les temps qui courent. Tous les soirs, une conversation qui dure une heure. Avec les artistes ce soir, avec Catherine Mavrikakis.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux t'appeler, t'es.
Ça y est, je suis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, voilà, ça résume.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps, par les temps qui courent.
Marie Richeux avec Catherine Mavrikakis.
Anne Frank se trouvait là, assise sur mon lit, juste à côté de mon corps souffrant. Pour mieux veiller sur moi, elle s'était juchée sur un coussin tout blanc avec mortier sur ses genoux. Le chat semblait très content d'avoir retrouvé sa maîtresse après tant d'années, il ronronnait de bien-être. Il souriait, comme le chat de Cheshire. De ses doigts fins, couverts d'encre, Anne Frank me caressait les cheveux en les disposant savamment sur mon front. Une petite robe noire, à mi-donnée, cachait son corps trop maigre, penché vers moi. Mais son beau visage intact, son visage éternel, celui qu'on lui voit sur les photos de l'époque, me contemplait avec une bienveillance que j'avais peu connue dans ma vie. Anne Frank était revenue pour me persuader d'exister. C'est un extrait de votre dernier roman, Catherine Mavrikakis, qui ne réussit pas seulement le tour de force de cette scène poignante de tendresse, mais formule aussi l'hypothèse qu'il existe en nous des annexes plus ou moins secrètes, où l'on se cache plus ou moins contraint, où nous sommes plus ou moins à l'aise dans l'exiguïté et avons la compagnie d'entités venues de nos lectures et de nos morts. Votre roman s'appelle L'Annexe. Il a paru chez Sabine Vespizer, éditeur. Bonsoir, Catherine Mavrikakis. On doit signaler aussi, puisqu'ils peuvent aller de pair, en tout cas ils peuvent se répondre et se parler, la parution en France de Deuil cannibale et mélancolique, il était paru il y a 20 ans à Montréal. On commence par un extrait de l'annexe.
Je n'allais chez les Franck qu'une fois par année et j'y demeurais toujours un peu trop longtemps. Malgré la haine que pouvaient exercer les autres visiteurs à l'égard de celles qui ne respectaient plus la logique de la file progressant vers la sortie. On ne se rend pas chez des amis à l'étranger pour s'enfuir au bout de 15 minutes. Bizarrement, je considérais l'appartement des Franck comme un lieu hospitalier et ses anciens occupants assassinés dans les camps comme des figures bienveillantes à mon égard. Ce jour-là, le 6 juillet 2015, je m'étais attardé juste assez dans la chambre d'Anne pour commencer à me sentir captive. Et j'en étais arrivé à une conclusion absurde qui entretient peu de lien avec la vie des Franck. Il reste terrible d'avoir un lieu à soi. On finit par y étouffer. Quoi qu'il arrive, l'appartenance à un espace, à un bout de terre ou à un petit appartement est néfaste. On finit par se donner des droits, comme celui de vivre. On développe un sentiment qui n'est pas fondé, une impression idiote qui concerne la naturalité de l'existence. Le lieu donne cette impression de légitimité à la vanité de la présence humaine dans le monde. C'est peut-être ce que Jean-Jacques Rousseau a voulu dire au début de son discours sur l'inégalité. Le premier qui, ayant enclos un terrain, s'avisa de dire « Ceci est à moi », et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. La culture telle qu'on la conçoit débute par la constitution d'un chez-soi.
« Voilà une femme bien singulière qu'on rencontre au début de votre roman, Catherine Mavrikakis, qui fait une sorte de pèlerinage comme ça, récurrent dans l'appartement, cette cache des Franck, et qui en tire des considérations sur presque un lieu à soi de Virginia Woolf. Il y a plein de choses dans ce début de roman, mais peut-être est-ce que vous pouvez nous la présenter, cette femme-là ?
Alors oui, elle s'appelle Anna, c'est une espionne, donc elle n'a pas de lieu à elle, justement. Elle est toujours en vadrouille, en mission. Et je crois que c'est quelqu'un qui a un moment très important de sa vie, c'est-à-dire qu'elle a toujours vécu d'une certaine façon, c'est-à-dire en n'ayant pas de lieu à soi. Et puis, elle va être planquée dans une cache parce qu'elle a fait quelque chose d'un peu étrange dans une dernière mission. C'est pas exactement ce qu'elle a fait. Et elle va être cachée dans une annexe où il y aura d'autres gens autour d'elle. Et elle va devoir rester dans un même lieu et savoir ce que c'est d'une certaine façon l'appartenance. Et son appartenance à elle, étrangement, alors qu'elle a un peu tout oublié de son ancienne vie, c'est la littérature, puisque dans ce lieu improbable, elle a des souvenirs littéraires, elle est aussi dans un lieu où il y a une énorme bibliothèque, et ce sont ses réminiscences littéraires qui lui reviennent comme ce qu'il y a de plus familier en elle. Donc, mais ses considérations sur une espèce de nomadisme spirituel me semblent importantes, parce que j'ai l'impression que, justement, on a beaucoup parlé de Virginia Woolf et de cette chambre à soi pour écrire, et moi j'ai un peu l'idée contraire, c'est-à-dire que j'ai l'impression que l'écriture est liée à une certaine errance, qu'elle soit peut-être prise dans une chambre à soi, c'est-à-dire peut-être qu'il y a une errance qui demande d'être un peu carcérale, c'est-à-dire spirituelle aussi, mais je vois l'écriture comme un nomadisme, tout à fait.
D'ailleurs, c'est une femme presque en errance qu'on rencontre au début de ce roman-là, qui détruit l'idée de la nécessité d'un chez-soi comme le début d'une identité ou d'une solidité. Au contraire, elle attaque cette idée-là. Et en même temps, c'est paradoxal, puisque la notion du chez-soi ou du home, qui est assez difficile à définir en français, elle semble quand même à sa recherche. Est-ce que vous diriez que pour cette femme-là, pour la narratrice de votre roman, le home, le chez-soi, c'est la littérature?
Tout à fait, je crois que c'est ça, c'est qu'elle se retrouve uniquement dans la littérature, et c'est dangereux pour elle. C'est-à-dire qu'au moment où elle va retrouver la littérature, c'est-à-dire une identité, des goûts qui sont à elle, puisque comme espionne, elle n'avait pas de goût à elle, c'est toujours des goûts qu'elle fabriquait selon ses missions ou qu'elle faisait semblant d'avoir, tout à coup elle va se rappeler des affects que lui ont donné la littérature, parce que la littérature n'est pas simplement cérébrale, elle est particulièrement affective, elle voit les êtres autour d'elle comme des personnages de roman, et parce que elle a du mal à avoir un accès direct au monde, cet accès au monde est toujours médiatisé par la littérature et ses affects. Et ça, j'y tiens beaucoup, parce que je crois que la littérature, c'est quelque chose qui s'inscrit en nous, ou qui inscrit en nous quelque chose de nos émotions. Il donne, la littérature, souvent, on ressent des choses. Moi, en fait, quand j'étais enfant, il me semble que j'ai ressenti beaucoup de choses, et que, à cause du milieu dans lequel j'étais, j'avais beaucoup de mal à donner un nom à ces émotions. Et quand je me suis mise à lire, et particulièrement Anne Frank, justement, j'ai eu l'impression de pouvoir nommer et d'inscrire en moi, par les mots, ces sensations un peu informes qui me traversaient. Donc, il me semble que la littérature est venue, en quelque sorte, former une identité et me donner un lieu de parole. Donc oui, la littérature est un lieu pour moi, et je crois qu'elle est un lieu pour beaucoup de gens qui n'ont peut-être pas un sentiment d'appartenance très fort au monde, et pas seulement à un pays. Parce qu'il y a, quand même une appartenance au monde qui peut être problématique aussi.
Oui, et puis on sent bien aussi qu'il y a une forme de critique politique possible à considérer qu'il faut un chez-soi, qu'il faut un être-soi bien stable et bien déterminé. Tout est plus mouvant pour cette femme. Mais vous dites aussi que tout est plus dangereux pour elle. Où est le danger? Outre cette mission et l'espionnage, etc., qui est le tissu de votre roman, mais on sent bien que c'est un prétexte pour vous amuser et pour nous dire plein d'autres choses, Catherine Mavrikakis. Le danger se situe où pour elle?
Le danger, je vais de façon un peu étonnante, se retrouve dans cette proximité à elle-même. Ouais. C'est-à-dire que c'est la familiarité à elle-même qui est un problème. Et cette familiarité va prendre la forme d'un personnage. C'est-à-dire, elle va rencontrer un geôlier dans cette annexe qui s'appelle Celestino. Et ce personnage de geôlier lui rappelle qui elle est, qui elle a déjà été. Or, il lui rappelle la littérature parce qu'il connaît la littérature encore mieux qu'elle. Et il joue avec elle a des espèces de quiz littéraires et ils s'amusent tous les deux et elle se rend compte que elle serait prête à être soumise à ce maître littéraire parce que il lui donne l'impression d'être chez elle et donc je pense que le danger c'est la littérature dans mon monde parce qu'il y a j'avais pas envie de faire un livre qui était très clair en fait. J'avais pas envie de dire la littérature ce n'est que du bien ou ce n'est que du mal. J'avais envie de montrer que dans toute chose dans tout art, il y a à la fois du bien et du mal et qu'il est parfois difficile de distinguer le bien du mal en littérature.
Mais d'un point de vue moral, vous voulez dire?
D'un point de vue moral, mais aussi d'un point de vue, personnel.
Ce que ça fait aux humains, quoi.
Ce que ça fait exactement. D'un point de vue subjectif, c'est-à-dire la littérature, on le sait, des fois ça nous met dans des états, on lit un livre et puis on est bouleversé, mais pas seulement dans un bon sens. Hein. Il me vient des envies de crime, quand je lis parfois, il me vient aussi l'envie de faire du bien. Mais il y a les deux. Et rien de ce qui est humain ne lui est étranger, quoi. Donc, j'avais envie de montrer, parce que je pense que si je faisais un essai littéraire, ça sera en défense de l'art et de la littérature. Mais comme je me suis permis d'écrire un roman, j'ai l'impression que le romanesque ou le cinématographique ou bon l'art en général peut nous montrer des zones grises que un essai, une parole justement comme en ce moment je vous tiens m'assigne à une place de noir ou de blanc qui souvent réduit les choses. Or il me semble que si on réussit bon, une œuvre d'art, et c'est pas ma prétention, je suis pas du tout en train de dire que j'ai fait une œuvre d'art, mais ceux et celles qui font des œuvres d'art arrivent à faire des œuvres qui souvent ne présentent pas les choses de façon très claire et qui viennent nous bouleverser justement à cause de cette zone d'ombre.
Anne Frank, elle était obligée de se cacher. Elle savait pas à quel moment elle allait mourir. Elle savait que sa vie était terriblement limitée. Elle vivait dans des conditions de vie dans un espace très limité. Mais à partir du moment où quand elle a commencé à écrire son journal, elle a pu vivre dans le futur, elle a pu vivre dans le passé. Elle a pu se sortir de cet univers très fermé. Elle a pu expérimenter la liberté. Alors qu'elle vivait dans un monde où tout le monde s'entretuait, où l'on tuait les juifs, où il y avait les chambres à gaz, elle pouvait s'abstraire de ce monde, et elle pouvait, à partir du moment où elle regardait par la fenêtre cet arbre, et elle pouvait éprouver la beauté du monde et ressentir la joie. Et grâce à ce travail d'écriture, elle a éprouvé la liberté, elle a connu la liberté. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris directement l'intérêt, la beauté, la chance de pouvoir écrire. Et ça m'a donné l'envie d'écrire. Et c'est pourquoi, à l'époque où je suis devenue étudiante, j'ai commencé à écrire mon journal moi-même. Et c'est en fait à ce moment-là, ça a été le point de départ de tout.
Le point de départ de tout pour l'auteur japonaise Yoko Ogawa au micro de Laure Adler en 2010 dans l'émission Hors Champ sur France Culture. Vous l'ébauchiez tout à l'heure, Catherine Mavrikakis. Il y a des choses ressenties dans l'enfance à la lecture qui se sont progressivement étayées, qui ont pu se mettre en mots, que vous avez pu aussi petit à petit partagée. Pourquoi est-ce que la lecture du journal d'Anne Frank tient une place un peu particulière dans tout ce cheminement ?
Alors, j'ai commencé à lire le journal d'Anne Frank quand j'avais 11 ou 12 ans et je l'ai lu beaucoup de fois depuis. J'y retourne souvent parce que j'ai l'impression qu'il y a comme une scène originelle pour moi, très importante. Alors, d'abord, il y a quelque chose de mon histoire. C'est-à-dire que ma mère a vécu la Deuxième Guerre mondiale en Normandie, ici, et elle m'a... Je dis toujours que j'ai été élevée, même si je suis née en 61, j'ai été élevée en 1940-45 parce que ma mère, tous les jours, me racontait ce qu'elle avait vécu durant la guerre. Donc, ça m'a pris beaucoup de temps pour sortir, en fait, de la guerre. Et j'avais l'impression que ces récits de guerre n'existaient bien... que dans le discours de ma mère ou alors dans les films, parce qu'est-ce qu'il y avait comme film sur les soldats allemands à l'époque qui étaient devenus des espèces de beaux grands hommes. Et il y avait tout quelque chose de très étrange à cette époque-là, dans les années 60, et une beauté du nazisme qui ressortait dans les films allemands et ou américains. Mais alors, je n'avais pas l'impression d'avoir accès à la Seconde Guerre mondiale enfant, autrement que par ces deux modes de représentation. Et puis je rentre au secondaire en sixième ou en cinquième et je me mets à lire Anne Frank. Et là j'ai accès autrement à la guerre. J'ai accès par quelqu'un qui a à peu près mon âge et qui vit des choses. Et immédiatement, bien sûr, je n'ai rien vécu comme Anne Frank, mais immédiatement, et je crois que c'est le cas de milliers d'enfants ou de petites filles, je m'identifie à Anne Frank. Et j'ai l'impression d'être non pas confinée dans ma chambre, mais de vivre des problèmes semblables avec mes parents, de vivre quand même dans une certaine promiscuité, parce que on n'a pas toujours une chambre à soi quand on est jeune, etc. Donc, j'ai eu l'impression qu'il n'y avait pas seulement dans le texte d'Anne Frank quelque chose de la guerre, mais il y avait aussi quelque chose qui m'appartenait, qui me concernait directement, moi, petite fille ou jeune fille de 13 ans. Et donc, c'est la rencontre de ces deux univers, c'est-à-dire de moi, adolescente, et de cette fille la fille d'une femme qui a vécu la guerre, qui m'a complètement bouleversée. Donc c'est un peu ça mon rapport à ce texte-là. Et puis sa capacité d'écrire aussi, parce que Anne Frank, alors qu'elle ne elle a l'impression qu'elle, on pourrait avoir l'impression qu'elle ne peut rien faire là-dedans, se met à écrire et se met à rêver. J'aime beaucoup ces passages où elle raconte qu'elle met au mur des photos de stars. Les images du cinéma, par l'écriture, elle a la possibilité de prendre une distance, de réécrire ce qui se passe, de s'échapper de son lieu. Et ça, il me semble que toute adolescente a envie de ne pas être là ou d'être ailleurs. Donc, j'avais l'impression qu'Anne Frank, elle avait écrit pour moi. Et bon, avec aussi bête que ça puisse paraître. Et je m'étais toujours dit un jour, j'aurais aimé pouvoir écrire pour elle. C'est-à-dire, j'aurais voulu lui dire comment elle était importante pour nous. Et je le fais beaucoup plus tard et d'une façon peut-être, évidemment maladroite, mais aussi qui marchera pas, ça sera peut-être pas... Mais pour moi, c'est une lettre qui lui est adressée. C'est-à-dire, il y a quelque chose pour moi de l'hommage dans ce que j'écris. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui arrive à survivre. Et je ne dis pas survivre juste pour survivre, parce qu'elle va en mourir. C'est pas nécessairement survivre à tout. Mais j'ai l'impression qu'elle crée un espace de survie, aussi imparfait et aussi précaire soit-il. Et ça me parle beaucoup en ce moment, parce que ces espaces précaires de survie me semblent être au cœur de nos problèmes sociaux. Je pense à des réfugiés, je me dis il y a sûrement des gens qui sont peut-être déjà en train d'écrire dans ces espaces improbables qu'on connaît pas, et j'ai vraiment envie de voir l'écriture dans cette vulnérabilité là, ce qui est pas mon cas, hein, mais ça me plaît beaucoup de voir surgir de ces lieux là des œuvres.
Oui, presque à l'endroit impossible, oui, en fait. Il y a vraiment cette idée-là qu'elle est d'autant plus surprenante, cette écriture, d'autant plus précieuse, d'autant plus à chérir, qu'on pense qu'elle ne pourrait pas advenir là.
Voilà, c'est quelque chose qui... Et comment y arriver, ça demande tout simplement une espèce de capacité de créer en soi une chambre à soi. C'est-à-dire, je ne l'ai pas, cette chambre, mais je vais la créer. Donc ça, je trouve ça...
Donc vous rejoignez Yuko Ogawa quand elle dit finalement ce que je lis, parce que ça pourrait être très paradoxal ou même presque assez difficile à entendre. Quand je lis Anne Frank, je lis la liberté.
Ah oui, tout à fait. J'aime beaucoup Yoko Ogawa. Je suis très contente que vous ayez mis ça parce que ça l'a beaucoup influencé, sa lecture d'Anne Frank. Et je pense que oui, j'ai l'impression de lire cette liberté que l'on peut se donner, cette souveraineté, je dirais aussi. Il y a chez Anne Frank, malgré tout, une souveraineté dans la détresse et dans l'horreur. Et ça, c'est extraordinaire, il me semble, de pouvoir quand même continuer à avoir le droit de penser ce qu'on veut, de vivre ce qu'on veut dans des conditions qui ne permettent pas.
Je lisais en introduction de cet entretien, Catherine Mavrikakis, une scène qui me touche particulièrement parce qu'elle dit aussi toute la puissance de la littérature et de ce que c'est que de mettre des mots sur une page, à savoir les retrouvailles entre une Anne Frank et une Anna, et des retrouvailles de tendresse qui pourraient presque être des retrouvailles de filiation. Vous disiez vous rendre hommage, mais ça pourrait être une sorte de filiation à l'envers, comme ça, de se sentir la fille ou la mère ou la sœur, enfin voilà, une peau caressée, des cheveux remis sur le sur le front. Il y a quelque chose d'extrêmement sensuel, et là encore, ça pourrait presque être difficile à lire. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'elle est adolescente, parce qu'elle est morte en déportation, parce qu'elle est la figure qu'elle est, ça pourrait être difficile à lire, et vous faites une scène de tendresse, de grande tendresse.
Oui, mais je crois que quand j'ai lu le journal d'Anne Frank, quand j'étais jeune, je la voyais tout de suite comme une sœur, comme une autre moi-même. Je l'ai tout de suite vue dans un rapport de... Puis je me suis aperçue qu'elle avait l'âge de ma mère, et donc qu'elle aurait eu l'âge de ma mère, en fait. C'est un conditionnel, parce qu'elle ne l'a jamais eu. Mais et là, elle est devenue une espèce de figures tout à fait différentes pour moi. Et mais maintenant que je suis vieille, j'ai l'impression que c'est une petite fille pour moi. Ce serait même éventuellement ma petite fille. Donc j'ai l'impression que ce qui est magnifique avec elle, c'est qu'elle m'a accompagnée et qu'elle a changé de place, mais son corps est très important. C'est peut-être ça que vous voulez en venir, c'est-à-dire que on voit beaucoup son visage, on voit beaucoup ses yeux, on voit beaucoup
ses cheveux,
ses barrettes, ses robes. Il y a un seul vidéo où on la voit bouger. J'ai l'impression que ce corps-là s'est mis à incarner pour moi une espèce de force et de faiblesse, parce qu'on sent les deux de ces jeunes filles. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu, à travers les âges, la même tendresse pour elle. C'est-à-dire, c'est toujours quelqu'un qu'on a envie de prendre dans ses bras. Et puis, avec le temps, j'ai l'impression que c'est elle qui m'a pris dans ses bras.
Absolument. C'est un corps que vous faites tout à fait multiple et avec tous les âges en même temps. C'est-à-dire que ce personnage qui devient un personnage de votre roman, qui n'est plus d'ailleurs presque plus la Anne Frank ni de l'histoire ni de la littérature, elle est à la fois une grand-mère possible, une mère possible, une sœur, quasiment une, peut-être pas une amante, mais enfin quelque chose comme ça de très doux.
Elle prend toutes les formes, c'est un espèce d'ange gardien, mais avec son corps. Et je crois qu'il y a quelque chose de très stéréotypé dans notre construction d'Anne Frank. C'est la petite juive charmante. On a vraiment voulu se racheter d'une certaine façon en créant cette jeune fille. C'est pas cette jeune fille pure, et je pense qu'il y a eu tout un discours qui a essayé de recréer une figure de petite juive acceptable après la Deuxième Guerre mondiale, pour qu'on oublie un certain antisémitisme, etc. J'ai envie beaucoup plus de, je vais le dire, mais je le fais pas, mais de la singulariser. J'ai envie de lui redonner un corps qui n'est pas simplement le rachat, ou un corps qui ne serait pas historique. J'ai envie de dire, ben non, elle serait là et je l'aimerais maintenant, et j'aime encore Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose de... J'avais envie de la resingulariser et de... Même si, évidemment, on ne peut pas dire Anne Frank sans que ça soit déjà... C'est difficile d'entendre...
Mais du reste, vous le faites?
Oui, j'espère. Mais, j'aurais voulu pouvoir dire Anne Frank sans qu'on entende Anne Frank.
Mais en fait, vous prenez cette liberté-là.
Le monument, voilà.
Oui, mais par exemple, quand vous faites une personnage de roman qui squatte littéralement alors que tous les touristes passent dans cet endroit qui est devenu sacralisé, qui est un lieu d'histoire, et que vous faites une femme qui décide de rester beaucoup plus longtemps, qui devient bizarre du coup, qui devient un corps bizarre, je pense que vous, d'un seul coup, vous vous autorisez ça en fait. Vous restez plus longtemps que la seule formule Anne Frank.
Oui, j'y tenais beaucoup. J'avais envie de redonner un certain anonymat, mais pour me l'approprier, mais un certain anonymat à cette petite fille.
Est-ce que vous diriez que c'est par le détour d'Anne Frank, c'est pareil, j'ai noté cette phrase qui n'était pas exactement dans la toute suite du texte, mais qui disait Anne Frank était revenue pour me persuader d'exister. Est-ce que vous diriez que c'est par le détour de cette sorte de retrouvaille que Anna se singularise elle-même, enfin s'autorise à être singulière?
Oui, je crois qu'elle lui permet d'avoir envie d'abord de se libérer des chaînes dans lesquelles elle est, mais aussi de retrouver une singularité, c'est-à-dire d'accepter son métier d'espionne, parce qu'elle va redevenir espionne, mais d'accepter son métier d'espionne, mais de façon voulue, c'est-à-dire
connaissance
de cause, exactement. Et puis moi, je pense vraiment que, alors là, c'est pour la biographie qui est peut-être pas si intéressante, mais pour ma biographie, je crois qu'Anne Frank m'a donné et a donné à beaucoup de jeunes filles de ma génération et puis des suivantes, puisque j'ai demandé l'autre jour en classe et les gens avaient lu Anne Frank et ils l'ont, toutes mes étudiantes l'avaient lu en tout cas, elle m'a donné la permission de vivre. C'est-à-dire, il y a eu comme ça, je ne sais pas pourquoi, mais elle nous donne la permission de vivre, elle qui est morte, mais elle nous dit, on a le droit de vivre, de profiter du moment, etc. Donc il y a une formidable liberté, Yoko Ogawa a tout à fait raison.
La lecture, c'est important pour un écrivain, vous savez bien, parce qu'il faut apprendre pour écrire. Pour moi, le plus important, c'est avoir trouvé une voie personnelle. C'est le plus important d'un écrivain. Pour moi, les écrivains que j'aime, ce sont qui ont une voie personnelle. Et ça, c'était ma recherche. Et pour avoir une voie personnelle, il faut copier. Mm-hmm. Copier, je veux dire, entre guillemets. García Márquez me disait qu'il a pris par cœur deux livres, La Métamorphose de Kafka, par cœur. Et moi, j'ai fait une chose. Je copiais les livres que j'aimais. Par exemple, j'ai appris à écrire La Machine, l'époque c'était La Machine, avec Natalia Ginzburg et avec Kafka. Il y avait deux autres écrivains. Et pour moi, c'était pas copié, mais c'est pas par cœur, mais j'ai copié La Machine. C'est un truc. Je dévorais les livres. Maintenant, je ne dévore pas. Je lis pour plaisir. Et aussi pour me documenter pour mes prochains romans. Tous mes romans sont très documentés. Ça ne se voit pas. Ils sont très documentés.
France Culture, par les temps qui courent, Marie Richeux avec Catherine Mavrikakis.
J'avais jadis essayé de comprendre l'espèce humaine par la lecture. Durant ma jeunesse, quand j'étudiais la littérature et la philosophie aux États-Unis, en Allemagne et en Russie, j'inventais une vie aux autres, lors de complexes exercices à la fois intellectuels et spirituels. Mes lectures me permettaient de déchiffrer des tas de signes à même le corps, les gestes et les actions de ceux et celles qui m'entouraient. J'en faisais le matériau d'une histoire fabuleuse que je pouvais transformer à loisir. Plus tard, dans le cadre du travail, cet entraînement m'avait paru utile. Dans le métier d'agent secret, il reste de mise d'imaginer les morceaux manquants d'un récit ou d'une existence. Il s'agit d'interpréter afin de poser les bons gestes. Pour les espions au service de l'Agathos ou de l'Ectros, comme pour tous les êtres humains, il est important de trouver une fiction sur soi et sur autrui qui crée une cohérence. Sous l'égide de cet ordre du monde inventé, les événements se classent. Ils se soumettent à une rationalité, fictive bien sûr, mais comment y échapper, conduisant à l'action. Avec les années, j'avais dû abandonner l'aspect romanesque, interminable, de mes spéculations sur autrui. Divaguer, rêvasser, m'avait été très naturel. Surtout quand je vivais au pensionnat, loin de la famille. Au cours de ma vie, j'avais appris à faire plus court, à concocter les récits brefs et précis. J'allais vite à une conclusion. Je décidais de fuir ou de rester, ou encore de dégainer. Ma porosité aux indices, aux marques et symptômes avait en quelque sorte disparu. Elle avait fait place à un état d'observation maîtrisé, à une veille permanente, qui ne me conférait que des moyens d'intervention. À partir de cette merveilleuse capacité d'hospitalité de la pensée d'autrui, que nous avons jeunes, le temps crée un état psychologique policier. N'entre plus qui veut dans nos psychés. C'est du moins ce que j'avais pensé être ma règle de vie depuis fort longtemps.
Catherine Mavrikakis, c'est un extrait de l'annexe que vient de lire Romain de Bec-de-Lièvre, et on sent bien que se mêle à la fois tout son métier d'agent secrète, d'espionne, et tout son état au monde, que tout est absolument imbriqué dans ce personnage de Anna, et que son état au monde, il a été régi pendant très longtemps par la lecture. Mais finalement, puisque vous ne faites pas... votre écriture, elle est épaisse, quoi. Finalement, c'est aussi une manière pour vous, parce que vous faites de Anna une grande lectrice, une manière de réfléchir sur notre façon d'être au monde, qui est on fait de la fiction avec le réel, on fait de la fiction avec ce que sont les gens, on fait de la fiction avec ce que nous sommes, on fait des fictions temporaires pour faire tenir des relations et puis les faire tomber, et puis etc., etc. Donc en fait, c'est comme une sorte de poupée de gigogne, ce personnage de Anna. Elle est grande lectrice, mais aussi parce que ça vous sert à nous raconter des choses.
Oui, mais tout à fait. C'est-à-dire que ce qui m'intéressait, c'était de voir comment nous construisons nos identités, en fait. Et j'ai toujours un peu de méfiance face à des identités qui seraient très stables. Nous faisons des récits sur nous que nous voulons très cohérents. Or, il me semble que nous sommes particulièrement incohérents et que la littérature peut montrer des personnages beaucoup plus incohérents que ceux qui sont dans le monde. Donc, j'avais envie de montrer que nous sommes d'avance lecteurs des autres, puisque nous lisons. Je rencontre quelqu'un tout de suite, je vois des signes, je sais que je vais répondre à ces signes suivant ma lecture de mon interprétation de ces signes. Et j'avais envie de montrer que, dans le fond, la lecture, le récit sont notre quotidien, sont notre pain quotidien.
Même pour qui ne lit pas.
Même pour ceux qui ne lit pas, parce qu'on fait juste lire, en fait.
Tout le monde, les gens, tout.
Exactement. Et nous passons notre vie à nous inventer des récits sur soi, nous-mêmes. Donc voilà, c'était un peu ça. Et elle a vite compris ça dans son métier, puisqu'elle est toujours en train d'entrer dans un nouveau récit, puisqu'elle fait des vies en fonction de ses missions. Mais pour moi, ça me fait toujours très peur. J'ai toujours peur personnellement de me mentir, c'est-à-dire de me raconter un récit auquel je vais bien sûr tenir, parce qu'on tient à son identité. Mais ce qui m'intéresse, c'est les moments, enfin, c'est un peu perversement face à moi, mais ce qui m'intéresse, c'est les moments où mon récit de moi ne colle plus à moi-même. Et là, je trouve que les moments de crise, étonnamment, sont les moments les plus intéressants. Et j'ai pas trop envie d'avoir des crises, hein, mais je trouve que j'aime beaucoup voir les moments où dans la vie, d'un seul coup, notre identité ne colle plus. Elle se met à être un petit peu en décalage, et là, on voit combien nos récits sont fragiles aussi.
Oui, parce que on entendait dans cet extrait lu par Romain que le métier d'agent secret, c'est comme ça, colmater des brèches, que là où il y a des récits, où il y a des trous, alors l'agent secret vient là comme ça inventer. Mais je notais sur mon petit bout de papier, mais c'est aussi le métier des enfants, c'est-à-dire que oui. Cette femme, elle ne fait aussi que décrire. Un métier de vivre, d'une certaine manière.
Oui, tout à fait. On est toujours dans une herméneutique du vivre. Donc, oui, tout à fait. Et on n'arrive pas si on lisait pas, on pourrait pas agir, en fait. Donc, pour moi, c'est très important. Et je dis toujours à mes étudiants, mais apprendre à lire, c'est aussi apprendre à vivre. C'est-à-dire que pour vivre, il faut arriver à décrypter plein de choses. C'est pas seulement le code de la route, mais on est tout le temps en train de travailler avec des mots qu'on connaît pas, mais ou des signes qu'on connaît pas, et on se met à les réagencer dans la phrase qui est la vie.
Comme une sorte de grande entreprise de compréhension. On recevait il n'y a pas très longtemps le poète Charles Julliez qui disait « Moi, la littérature et la lecture, ça n'a été que ça, une sorte de grande entreprise d'éclaircissement, de compréhension, de sortie du brouillard. » Et on entendait cette archive de Nouria Hamad qui disait « Finalement, moi, pour écrire, il m'a fallu lire, il m'a fallu copier. » D'une certaine manière, on peut continuer la métaphore, Catherine Mavrikakis. Ça aussi, c'est le métier d'écrivain, mais c'est le métier de vivre, quoi. C'est,
oui,
je m'invente en copiant, je me décale un tout petit peu.
Tout à fait. Même mon premier livre, Deuil cannibale et mélancolique, j'avais copié Hervé Guibert. C'est-à-dire, Hervé Guibert a été pour moi celui qui m'a permis d'écrire. J'ai lu À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie. J'avais déjà lu ses œuvres, mais À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie m'a, d'une certaine façon, forcé à écrire. Je me suis dit, lui, il parle de sa mort. Moi, j'ai beaucoup d'amis morts qui n'ont pas la chance de pouvoir écrire parce qu'ils ils vont mourir trop vite, ou alors ils n'auront pas eu le temps de préparer ou de faire une œuvre. Et je me suis dit, je veux écrire sur ces amis morts que j'ai tous appelés Hervé. Et dans le livre, donc j'ai eu l'impression, alors que la littérature jusqu'alors, puisque j'ai fait des études de lettres, m'avait un peu empêché d'écrire. C'est-à-dire que ça m'avait mis une espèce de surmoi. Comment écrire après avoir lu de si grands auteurs ou de si grandes autrices, comme on dit au Québec. J'ai eu vraiment envie de dire, mais non, Hervé Guibert me donne cette permission et je l'ai en quelque sorte copié. C'est-à-dire que je n'avais pas le sida, mais j'ai eu envie d'écrire un livre sur le sida. Pour mon sida à moi, c'était mes amis morts. Et donc, je c'est par la lecture d'Hervé Guibert que j'ai me suis donné la permission à presque 40 ans d'écrire. Donc,
qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'un livre, alors que vous êtes grande lectrice, que vous fréquentez la littérature, que vous avez étudié dedans, que vous enseignez, qu'est-ce qui fait que Guibert, il vous fait un comme ça, peut-être un après Anne Frank d'une certaine manière?
Oui, parce que oui, c'est le deuxième tout à fait. J'avais l'impression que Guibert se permettait une vérité dans la littérature, qu'il y avait une urgence aussi, peut-être comme chez Anne Frank d'une certaine façon. Bien sûr, Anne Frank n'avait que 13 ans, mais j'avais l'impression que chez Guibert il y avait la nécessité d'une écriture dans L'ami qui ne m'a pas sauvé la vie, même dans ses autres textes, mais et j'avais l'impression qu'il m'avait un peu contaminée de cette nécessité, c'est-à-dire que il faut écrire parce que il y a quelque chose qui va se perdre, il y a quelque chose qui peut il m'a donné une permission. Je peux pas expliquer pourquoi. J'avais l'impression que aussi la cruauté chez Guibert, c'est-à-dire que Guibert est très cruel envers les autres, mais aussi envers lui-même. Et si j'avais envie de faire un texte au début de mon écriture, j'avais vraiment envie de faire aussi des textes cruels. J'avais envie de pouvoir dire des choses, pas seulement des choses agréables, mais des choses qui pouvaient être désagréables. Et il y a quelque chose, je pense que chez Guibert, il y a aussi une très grande souveraineté, la souveraineté que lui a donné la mort qui arrivait, mais il y a toujours eu ça, même dans ses premières œuvres. Mais il y a une liberté, justement, chez Guibert, dans l'écriture. Je me permets tout dans l'écriture. Et ça, c'est quelque chose que j'avais peut-être, que je taisais en moi et que j'avais envie de mettre de l'avant grâce à lui.
Mon livre, c'est vraiment un hurlement, quoi. C'est vraiment aussi un appel au secours, quoi. J'ai l'impression, quelquefois, je me demande, est-ce que vraiment, par rapport aux informations qu'on peut décrypter dans la presse et tout ça, est-ce que tout est fait vraiment pour sauver ces vies humaines qui sont en danger? On a l'impression quand même, c'est terrifiant, parce qu'on a l'impression d'être comme dans des sables mouvants et de tomber toujours un peu plus. On a l'impression d'avoir les mains hors de ce bourbier. Et on se dit, bon, on crie tant qu'on peut, tant qu'on a la bouche hors de la boue, mais faut pas que la bouche tombe trop bas, quoi. Je suis forcé d'être très attentif aussi à son intelligence un peu, enfin, pas un peu, complètement diabolique. C'est un virus très, très,
c'est
très sournois et très, qui a un fonctionnement vraiment diabolique. Mmh. Le refuser, ne pas, je peux pas dire que j'aime le sida ou que j'aime avoir le sida parce que ça serait vraiment tiré par les cheveux. Enfin, ça serait pas juste, ça serait faux en même temps. Je lutte contre lui, c'est mon ennemi, mais à la fois, il est en moi, il fait partie de moi maintenant. Enfin, il est devenu mon travail, il est devenu, et donc je dirais pas que je l'aime, mais donc le mot sida lui-même, je suis plus qu'acclimaté, plus qu'habitué à le dire.
Vous êtes obligé de vivre avec lui.
Oui, c'est ça.
Les gens qui disent revenir de la mort parlent souvent d'une acceptation sereine, de tout l'au-delà. Cette résignation m'a toujours semblé scandaleuse. Et me voilà tout aussi servile que les autres, prête à me fondre dans le grand blanc visqueux. Tout tend à s'effacer. Les traces s'estompent rapidement. Un jour, nous serons tous morts, moi et tous les miens. D'autres parleront pour nous, à notre place. Nous commémorerons ou nous oublierons du même geste. Ce n'est même pas une certitude. C'est un savoir et c'est déjà beaucoup. Je pourrais faire la recension de tous mes morts, dresser des listes de celles et ceux que j'ai aimés, porter en moi tous les disparus du monde, me tatouer leur patronyme sur toute la surface de mon corps glorieux, ériger des millions de monuments, avoir 1000 enfants au nom de ceux qui gisent sans moi. Passer toutes les secondes de mes jours et mes nuits à réciter ces noms des oubliés, tout, je dis bien tout, un jour ou l'autre s'effacera, basculera. Et cela, malgré moi, me remplit d'un bonheur total. Oui, que cela s'arrête un jour, que cela finisse, que l'on n'en parle plus de mes rendez-vous avec les morts. On entendait d'abord une archive de 1990 et la voix d'Hervé Guibert qui parlait de ce livre-là, à l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie, comme d'un cri et d'une presque amitié étrange et paradoxale avec le mot sida. Et juste après, c'était un extrait, Catherine Mavrikakis, de Deuil cannibale et mélancolique, qui reparaît 20 ans après être paru à Montréal, ici à Paris, en France, chez Sabine Vespizer, éditeur. Je vais pas du tout respecter votre vœu. Et l'idée qu'on n'en parle plus jamais de vos rendez-vous avec les morts, c'était un vœu pieux, ou alors c'était un programme à l'envers dans ce premier livre, puisque finalement, il en fut beaucoup question de vos morts dans les livres qui ont suivi Catherine Mavrikakis. C'est votre lieu, à vous?
Oui, je crois que c'est mon lieu. J'aimerais bien ne pas porter ces morts-là. J'ai l'impression, je les porte pas dans la vie, mais je pense que dans l'écriture, c'est mon lieu d'écriture en tout cas. Ça a été très émouvant d'entendre la voix d'Hervé Guibert, parce que même si je l'écoute souvent, j'ai l'impression, et même si je l'ai jamais connu, j'ai l'impression de l'avoir connu par ses livres. Alors c'est comme si vous mettiez la voix de quelqu'un qui m'est très cher. Mais oui, j'ai passé, je pense que mon écriture s'installe dans ce lieu où je parle, où je dialogue, où les morts me parlent. Je sais pas toujours si on s'entend bien, mais c'est vrai que j'avais l'impression que, après ce premier livre, que j'avais écrit ce que j'avais à écrire, que c'était le livre qui... Bon, je l'avais fait. Et puis, l'écriture s'est réimposée après. Mais je m'étais dit qu'il y aurait quelque chose de très cathartique dans ce
cannibale et mélancolique.
Ouais, tout à fait. Et puis, non. Et donc, cette catharsis, elle est à répétition, elle est imparfaite. J'aimerais toujours m'en débarrasser, de toutes ces morts. Et finalement, je ne fais que des petits monuments, peut-être un peu ridicules, mes livres. Mais finalement, il y a quelque chose qui s'accumule. Je ne sais pas, j'ai toujours l'idée que les livres, même que j'aime lire, sont des tombeaux. J'aime aller lire des livres qui parlent de la mort ou des morts, en fait, parce que je trouve pas ça facile d'être humain et de mourir et de voir que d'autres meurent. Je trouve que la condition humaine est bien terrible. Alors on peut rigoler 90% du temps, et je sais rigoler, mais je crois qu'il y a quelque chose d'excessivement incompréhensible dans le fait que l'on va mourir et que les autres meurent. Il y a comme, mais voyons, pourquoi? Qu'est-ce que c'est ça? Il y a un scandale dans la mort, c'est bien évident. Donc, j'entendais le mot de Guibert qui parle de hurlement, de cri. Je crois que devant la mort, il y a comme quelque chose de très affectif. On a juste envie de crier. Et puis, de faire des... J'aime beaucoup les livres cris, d'ailleurs, et d'arriver à maîtriser ce cri pour pouvoir le partager avec d'autres, faire un texte ou une œuvre. Ça me semble important. Et lui l'a fait. Lui l'a vraiment fait.
Mais d'ailleurs, là, c'est marrant parce qu'en vous écoutant, je me dis, c'est aussi un livre, évidemment, sur l'amitié, Deuil cannibale et mélancolique. Il y a à un moment donné dans le livre, je ne saurais pas citer exactement, mais vous dites, un ami, c'est quelqu'un devant qui tu peux te présenter en disant, j'ai un cadavre sur le dos, est-ce que je peux m'en délester, quoi?
Oui, 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 c'est quelqu'un qui vous aide à vous débarrasser des morts, à le porter, qui vous pose aucune question. Où c'est que tu as eu ce cadavre? Non, il ne pose pas, mais je vais t'aider.
Je vais te soulager un peu, voilà, si tu veux, en porte à deux. Enfin, il y a quelque chose de constitutif dans la manière dont vous écrivez l'amitié là. C'est, on a des morts, ils pèsent lourd sur nos épaules, qu'on les connaisse ou pas d'ailleurs, voyons voir comment en amitié on peut s'en débrouiller. Et finalement, ce qui se passe dans votre dernier livre, l'annexe, qui quand même, avec ce mot-là, simplement avec l'annexe, avec la référence à Anne Frank, convoque aussi un bon gros paquet de morts difficiles à porter, oui, qui est l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et de la déportation et de l'assassinat des Juifs en Europe. Mais d'une certaine manière, vous faites de ces amis de littérature, en compagnie desquels se trouve Anna, des possibles compagnons pour porter les morts.
Oui, et je crois aussi que j'écris pour que quelqu'un, les lecteurs, puissent porter les morts avec moi. J'espère que c'est pas trop lourd pour eux, mais j'ai l'impression que les livres sont un peu des lettres, et puis destinés à ce pour que les autres nous aident aussi. Alors j'ai l'impression que très honnêtement, j'ai l'impression que l'espace littéraire, c'est un espace de partage, et on porte les peines les uns des autres, c'est-à-dire que le lecteur porte parfois les peines celui ou celle qui écrit, et inversement, c'est-à-dire que par anticipation, pour reprendre Pierre Baillat, on est quelquefois en train de porter la peine de ceux qui vont nous lire, c'est-à-dire que c'est pas exactement la même, mais il y a un écho, on crée des chambres d'écho où on se tend la main. Hein, donc je le vois un peu comme ça. Et c'est pour ça aussi que j'aime bien la cruauté dont je parlais tout à l'heure avec Guibert. Parce que pour créer cet espace-là, c'est aussi un il faut aussi avoir la capacité d'être parfois un peu violent, parce que cet espace-là n'est pas un espace simple. Entrer dans certains livres, c'est difficile. Il y a des livres qui sont difficiles à lire et je parle pas nécessairement des miens, mais c'est pas toujours des livres où on va rigoler. On peut rigoler, mais...
Oui, parce qu'on n'est pas sans rigoler non plus quand même.
Non, je crois qu'on rigole.
Il y a trois blagues qui traînent dans l'annexe.
Ben oui, il y a des moments où j'ai beaucoup ri, moi. Mais j'ai l'impression que ce sont des espaces où il faut entrer quand même en se disant, bon, ça va peut-être être dur, mais quand on y sera, il y a quelqu'un qui nous tendra la main. Voilà, j'ai l'impression qu'on doit entrer dans certains livres comme ça, en prenant un risque et puis en sachant très bien quand même, parce que ce ne sont que des livres, que quelqu'un va nous tendre la main dans l'espace de la lecture.
Pour Anna, ces mains tendues de la lecture prennent corps, mais vraiment, et donc elle voit apparaître comme ça des êtres qui reviennent, quoi, des lectures qu'elle a eues avant, des manières comme ça de faire de ses souvenirs des êtres de chair.
Oui, elle va dans l'annexe, donc elle ne saura jamais le nom des gens qui sont avec elle. Donc elle revoit, elle voit Charles Morel, un personnage de Proust. Elle va voir deux personnages qui auraient pu être des personnages de Tourguenieff. Elle va revoir Meursault. Elle va revoir un personnage de Isaac Asimov. Donc elle va voir des tas de gens, et comme elle n'est pas capable d'avoir un accès direct à eux parce qu'elle est comme ça, elle essaye de les fictionnaliser d'avance avant qu'eux-mêmes racontent leur propre fiction sur eux. Donc c'est une espèce d'écran, c'est-à-dire non, mais je sais très bien qui tu es, ton histoire, je l'ai comprise parce que j'ai tout de suite senti que tu étais tel personnage. Et elle les analyse à partir de ça, et elle ne se laisse pas d'une certaine façon soumettre à l'histoire que eux vont raconter.
Mais vous écrivez aussi, Catherine Mavrikakis, qu'elle se fatigue elle-même de cet écran-là. Elle dit « j'aimerais faire autrement, j'aimerais me laisser complètement surprendre par l'altérité, par la fiction de l'autre ». Elle essaye d'abandonner ça.
Oui, tout à fait, parce qu'elle a l'impression qu'il y a un effet de déjà lu, déjà vu. Et elle a envie de justement des espaces où il y a tous les livres qu'on a lus, puis il y a ceux qu'on n'a pas encore lus ou ceux qu'on n'a pas encore écrits. Donc elle aurait envie de trouver des personnages qui n'ont pas déjà été pensés. Et dans son annexe, il y en a quand même un, je crois que c'est elle. C'est-à-dire qu'elle va réussir à réécrire l'histoire d'Anne Frank, c'est-à-dire ne pas nécessairement succomber de la même façon.
Il y a un livre qui est important, qui revient aussi comme une sorte de fantôme, c'est Le baiser de la femme araignée.
Eh bien, ce roman raconte le séjour en prison de deux personnes qui, au départ, n'ont vraiment rien en commun. En effet, l'un, qui se prénomme Valentin, est un guerrier urbain, incarcéré pour des raisons politiques, et l'autre, un certain Molina, est un étalagiste homosexuel qui, lui, a été arrêté pour détournement de mineurs. Et comme souvent en Amérique latine, on enferme dans les mêmes prisons et dans les mêmes cellules des prisonniers de droit commun et des prisonniers politiques, ces deux personnages se retrouvent. L'amour semble exclu de son existence. Il est exclu de l'existence de l'étalagiste, de Molina. Alors ça, c'est le premier point commun qu'ils finissent par se trouver.
Exactement.
Et petit à petit, l'étalagiste, très habilement, va tisser entre eux toute une série de fils à la manière d'une araignée,
oui,
pour finalement obtenir un baiser du guerriero.
C'est ça,
le
fameux
titre du livre.
Le fameux baiser. Oui. Oui.
Et comment est-ce que l'étalagiste va procéder? Il va se mettre à raconter une série de films qu'il a vus, parce que c'est un passionné de cinéma.
Des films complètement idiots, il faut dire. Oui.
Non, des films kitsch. Très sentimentaloïde, des histoires d'amour qui se passent dans les Caraïbes, oui, où les décors sont constitués de palmiers en plastique avec des noix de coco.
Oui, mais il n'y a pas que ça. Il y a des films fascistes, de propagande, que Molina raconte à sa manière. Et le révolutionnaire lui dit « j'aime pas ce film, mais finalement ce que j'aime, c'est la manière que tu as de les raconter ». Car Molina recrée les films. Et ça, c'est très poétique, parce qu'en fait, il les raconte de telle façon qu'on ne sait plus très bien ce qui se passe dans ces films.
Moi, ça m'a absolument passionné. Là, dès les premières pages, les films que raconte Molina, on est avec lui, on les voit,
mais
ces films.
Mais si j'ose dire, Molina, de par son être même, a une imagination folle.
Oui, d'autant plus qu'il lui dit chaque fois, la suite à demain.
Exactement. Donc, première manière de créer des liens entre eux, raconter tous ces films. Ça fait passer le temps, ça intéresse le guérillero.
On a gardé un petit peu de longueur pour cette archive qui pourrait s'appeler « Trois hommes parlent d'un livre en 1979 à la radio et essayent d'avoir un peu le dernier mot. » Catherine Mavrikakis, « Baiser de la femme araignée, 1976, Manuel Puig. » Est-ce que ça pourrait être une sorte de trame souterraine de votre propre livre, l'annexe ?
Ah oui, complètement. Quand j'ai vu le film presque à sa sortie, et j'étais fascinée parce que je me suis dit, mon Dieu, ces deux hommes sont pris donc dans une cellule et ils arrivent à manipuler l'autre, mais finalement on sait plus qui manipule qui, parce qu'il y en a le révolutionnaire va faire en sorte que l'étalagiste qui le trahissait tombe, enfin il fait pas en sorte, mais il va réussir à ce que l'étalagiste qui le trahissait tombe amoureux de lui. Et moi cette espèce de balai entre
Anna et Celestino.
C'est vraiment, j'ai l'impression que c'est ce que j'ai voulu recréer.
Mais on est aussi pas très très loin des Mille et Une Nuits de Scheherazade, qui raconte pour sauver sa vie.
C'est le pouvoir de la littérature, tout à fait. Un pouvoir aussi qui peut être, on sait pas qui gagne, c'est-à-dire on sait pas qui est le maître, qui est l'esclave là-dedans, c'est-à-dire que celui qui raconte, on a l'impression qu'il est le maître, et puis finalement non.
Parce qu'il a besoin de raconter.
De montrer qu'il a le pouvoir par le récit. Donc moi c'était vraiment ce récit, c'était vraiment le baiser de la femme araignée qui sous-tendait mon livre, mais Anna met beaucoup de temps à voir qu'elle joue à ce jeu-là avec Celestino, parce qu'ils parlent tout le temps de littérature entre eux, mais jamais ils vont parler du baiser de la femme araignée, sauf à un moment donné où elle va comprendre que c'est ça qu'ils sont en train de jouer et qu'il lui fait jouer ça, parce que tout le long il lui dit tu es comme mon Albertine, tu es ma prisonnière, de la prisonnière de Proust, et puis elle rentre dans tous les peaux, la peau de tous les personnages que lui veut lui faire jouer, et puis finalement elle s'aperçoit qu'elle est en train de jouer le rôle d'un homme dans une cellule en Amérique latine, vous voyez, elle est tout à fait ailleurs. Donc c'est le pouvoir de la littérature, c'est-à-dire qu'ils sont dans cette annexe, mais en même temps ils sont pas là, ils sont dans un livre en fait, et ce sont des personnages de fiction.
Il pourrait être par exemple dans la tête du lecteur ou dans la tête de l'autrice.
Tout à fait.
Catherine Mavrikakis, merci beaucoup. L'annexe, c'est le titre de ce roman dont on a beaucoup parlé, et Deuil cannibale et mélancolique, c'est le titre de ce roman qui paraît en France pour la première fois. Lectrice, lecteur, rendez-vous le 3 mars à la boîte à livres, c'est une librairie à Tours, le 5 mars à la librairie Compagnie de Paris et le 6 mars à la librairie Kléber de Strasbourg. On pourra discuter avec vous, peut-être emporter un livre avec une signature.
Bien sûr. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Soft, immense, and warm, intruded. Well.
À la prise de son ce soir, c'était Valérie Lavalard. À la réalisation, Lise-Marie Barré. Par les temps qui courent, c'est Jeanne Aléos, Romain de Bec-de-Lièvre, Marianne Chassor et Julie Ascal. C'est aussi une page sur francecultures.fr. Il y a une petite enveloppe, c'est pour nous écrire. On est toujours absolument ravis de vous lire. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast via l'application Radio France et rester sur France Culture pour écouter le journal 22h. Très belle soirée sur France Culture. Till you return to outer space. Mm-hmm.
soft, immense, and warm, intruder. Welcome to the planet Earth. Welcome to our universe. We protect you carefully, correct you till you return to outer space. And this feels like something possible. Like I cannot, still I'll try. This feels like something impossible. Like I cannot, still I'll try. And a war.